The Queens, Laura Mvula. Trois concerts exceptionnels jusqu'à minuit.
France Inter, en direct du Festival des Inrocks. Deux soirées de concerts à vivre ce week-end sur France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, la voix est libre.
Allez, go! Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet, toutes ses amies et son répondeur. C'est parti!
Bonjour, c'est Jacques. Je suis breton et fier de l'être. Je suis scandalisé par l'attitude de certaines radios. Je ne comprends pas qu'on ne soutienne pas des patrons courageux qui réussissent à mobiliser des ouvriers en les payant des clopidettes. Qu'on n'approuve pas ces entrepreneurs qui courent les subventions pour vendre des poulets depuis Plounévez-Mouédec, des poulets à 3,50€ pour le Moyen-Orient dont mon chien ne voudrait pas. Qu'on n'approuve pas des paysans qui polluent les plages et l'eau du robinet, qui courent les subventions pour détruire le paysage avec le remembrement, puis retouchent de l'argent pour reboiser, puisque quelques années plus tard, ils ont inondé leurs terres. Qu'on détruise des portiques qui vont rapporter une manne mirobolante à une entreprise italienne. Voilà, je suis breton et pas fier de l'être. Ils ont des chapeaux ronds, vive les moutons et vive le bio.
Eh ben voilà l'émission que j'attendais. Oh, que c'est bon. Vraiment, ça a été super bon aujourd'hui. Et donc, ça vaut le coup quand même d'attendre. Hein. Bon, ben, merci, hein, messieurs les réacs.
je suis complètement... En fait, je me sens vachement élargie, non pas par l'art contemporain de la FIAC, mais vachement élargie par Franck Lepage. Non, il est trop fort, celui-là. Non, vraiment, il est trop fort. Je suis morte de rien. Allez, je vous embrasse, vous êtes trop mignons. C'est vachement intéressant. Ciao.
Ben, écoute, Bernet, je te remercie beaucoup pour ton émission. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant marré que ça. C'était Jean-Pierre de la Pocherie.
Ouais, bonsoir tout le monde. J'ai écouté l'émission sur la FIAC. Je pensais, est-ce que vous pensez, vous-même, que ma voix... Je pourrais la vendre là-bas. Est-ce qu'ils pourraient acheter ma voix? Sinon, j'ai aussi j'ai refait la clôture de mon jardin. J'ai un bout de grillage avec un sarment de vigne complètement torturé, coincé dedans. C'est très joli, j'ai gardé une œuvre d'art, quoi. Donc, je l'ai fait à 13 000 €. Et pour ma voix... Mais on peut en parler. Voilà. Merci. Continuez.
Bizarre, bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est étrange. Daniel, je te fais une bise. Est-ce que c'est de l'art? On va faire du pognon là-dessus. À mon avis, il y a un max à se faire. Bisous.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Boston, Massachusetts. Qu'est-ce qu'on fait à Boston, Massachusetts? Eh bien, on s'intéresse au Tea Party. On s'intéresse à la Boston Tea Party. C'est un grand moment de l'histoire américaine. Ça remonte à 1773. Et cette Tea Party est la référence de ce parti, de ce mouvement qui est né en 2009-2010 et qui est un étrange amalgame de revendications de toutes sortes. Certains qui nous semblent, nous, tout à fait légitimes et compréhensibles, d'autres qui sont plus bizarres et d'autres que nous contestons, bien évidemment. Mais tout ça n'est pas sans ressemblance avec ce qui se passe chez nous en France actuellement, avec nos bonnets rouges, notamment, mais aussi avec les manifs pour tous, avec le Front National, etc. Ça fait beaucoup de ressemblances, mais beaucoup de différences aussi. Ressemblance aussi face à ça, c'est l'impuissance ou la compromission, comme on voudra, des pouvoirs de centre-gauche aux États-Unis comme en France. Et aussi l'inefficacité de la gauche critique et de la petite bourgeoisie intellectuelle qui a échoué avec Occupy Wall Street, par exemple. Voilà ce dont nous parlerons, voilà nos hypothèses. Vous entendrez tout ça à notre retour. Vous avez beaucoup aimé l'histoire des trois réacs à la FIAC hier, mais on a oublié un réac, figurez-vous, c'est Régis Debray. Et oui, Régis Debray, il est très critique lui aussi envers cet art contemporain. Pour rien, cette vaste esbrouffe spéculatrice. Et là, il publie chez Gallimard le stupéfiante image, je dis bien, et c'est des textes, des choses écrites par Régis Debray devant des peintures, devant des images, depuis longtemps. Il se définit lui-même comme un iconolâtre. On a eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. On va passer, je crois, une heure tout à fait heureuse et stimulante ensemble. Debray va parler d'un certain nombre de peintures. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu délicat de parler d'images et de peintures à la radio. Alors, avec Jonathan, on a fait quelque chose. Vous allez aller sur labas.org, la-bas.org. Voilà, si vous êtes devant votre ordinateur, c'est possible. la-bas.org. Et Jonathan vous a mis toutes les photos, toutes les images dont Régis Debray va parler, depuis les peintures de la grotte Chauvet jusqu'aux divers peintres et peintures dont il va parler. Donc vous pourrez en contempler, il y a une dizaine d'images, sur labas.org. Voilà. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37. N'oubliez pas d'aller sur la-bas.org.
Bonjour à toutes et à tous. Juste un petit message pour vous annoncer que le repère de la Bassie, je suis de Perpignan, qui se réunit tous les premiers jeudis du mois, aura donc lieu ce jeudi 7 novembre à 18h30 au Café du Centre, à l'angle de l'avenue du lycée Arago. Venez nombreux, chers AMG, à jeudi.
Heidi, à tous les écouteurs de la Bassie, j'y suis. Aujourd'hui, comme tous les 7 de chaque mois, à 7h du soir, le repère des AMG de Nancy se réunit. Thème du jour, les éducateurs en danger. Un débat présenté par Franck, rédacteur en chef du Nouveau Jour J à Nancy, en compagnie d'éducateurs et aussi d'anciens éducateurs de Vivre dans la Ville. Sera présent également le comité de soutien des 3 licenciés de jeunes et cités à l'AXOU. Rendez-vous ce soir à 19h au bar Le Bon Temps, avenue Foch à Nancy. Aïdo!
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Régis Debray, le stupéfiant image.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors ça commence avec une faute de français, Régis Debray.
Ah bon?
Bah oui, le stupéfiant image.
Ah bah oui.
Le stupéfiant image.
Oui.
C'est
pas la stupéfiante image, c'est une citation d'Aragon. Le stupéfiant image, qui est à la fois le départ vers l'enivrement, l'intoxication aussi, comme l'opium, si tu veux. Le stupéfiant image, c'est une citation d'Aragon dans le Paysan de Paris.
Alors qu'est-ce qu'on va dire iconolâtre? Tu es un iconolâtre?
Oh, tu peux dire un idolâtre, si tu veux.
C'est-à-dire que depuis des années et des années, tu promène ta personne et tes yeux sur la peinture, la photo, la sculpture un peu moins, je vois pas beaucoup de sculpture dans ce bouquin. Et puis tu t'efforces de mettre des mots le long de tout ça. Et tu commences par nous en dire la difficulté, même si tu as eu des prédécesseurs fameux qui ont écrit sur ce qu'il voyait. Je veux pas t'écraser, mais enfin, Baudelaire t'a précédé, par exemple.
Je l'admets.
Tu l'admets. Et quelques autres qui ont éprouvé le besoin d'écrire à partir de ce qu'ils voyaient. Mais en reconnaissant, au moins dans ton cas, que l'image précède ta plume, et de loin.
Bah d'abord, on apprend à voir avant d'apprendre à lire. Hein. L'œil s'enracine dans ce qu'il y a de plus émotif, de plus viscéral. Et donc, au fond, la difficulté de parler des images, c'est de mettre des mots sur des sensations. Et pourtant, il faut des mots, je crois, pour avoir des sensations fines devant un tableau ou même devant un film. Je ne crois pas qu'on puisse court-circuiter les mots devant l'image et que celui qui n'a pas appris à lire et à écrire sera moins sensible. Reste tout de même que l'image est muette et qu'il faut rendre quelque chose d'indicible qui est une émotion, au fond. Comment parler d'une émotion ? D'abord, il faut mettre le mot. Si tu n'as pas la maîtrise des mots, c'est-à-dire si tu ne vas pas à l'école, je ne pense pas qu'on puisse court-circuiter l'école par le visuel, si tu veux. Et d'ailleurs, les grands critiques d'art sont des humanistes et même les grands cinéastes aussi, les grands peintres. C'est l'œil à l'état sauvage, d'accord, mais il faut que civiliser cette sauvagerie en essayant de la... Non pas de la réduire à un code abstrait, à des langues, il n'y a pas de logos là-dedans, mais il peut y avoir, je dirais, une approche sensible, littéraire, fine, qui exige, oui, on peut dire, un certain capital symbolique, comme dirait l'autre. Tout ça, c'est important, parce que un type comme Malraux, auquel on doit beaucoup...
Dont tu parles dans le bouquin, on va en parler.
Oui, avait tout de même fait le pari qu'on pouvait aller directement du petit enfant à la culture sans passer par l'éducation. Au fond, le ministère de la Culture, c'était pour contrer l'éducation. Parce qu'il disait, l'éducation, ça explique, le musée, ça émeut. Ouais, mais si tu ne peux pas te donner à toi-même une certaine connaissance historique d'une école de peinture, de la relation entre tel peintre et telle tradition, tu ne jouis pas, tu n'es pas ému. Je veux dire que ça ne tombe pas du ciel, tout ça. Donc je crois qu'il faut parachever l'éducation par ce qu'on appelle le ministère de la Culture, si tu veux, la visite des musées, la cinémathèque, oui.
Ce que tu décris sur Malraux, Bourdieu était d'accord avec toi, par exemple.
Oui, je crois.
Bourdieu disait, si on en croit Malraux, eh bien celui, les gardiens de musée seraient les plus grands connaisseurs en peinture, voilà. Eux qui sont en présence de ses œuvres permanentes. Il y a 12 millions de personnes qui passent au Louvre chaque année, et je me demande ce qui leur en reste, j'espère le plus possible, mais s'ils viennent sans tes intentions à toi, qui sont celles d'un pèlerin, d'un espèce de croyant, qui rentre un peu dans une église, d'ailleurs tu le dis quelque part, plus...
Ah, je dis que les musées sont devenus les églises.
Voilà, plus la religion décroît, plus les musées sont fréquentés.
Plus les églises ferment, plus les musées s'ouvrent.
C'est ça, voilà.
C'est évident. Mais n'oublie pas que Malraux n'avait pas son bac. Il a fait Malraux un autodidacte, qui veut en quelque sorte prendre sa revanche sur les professeurs. Alors, c'était un homme d'une culture prodigieuse, parce qu'il lisait, il y avait une curiosité immense. Mais il y a chez lui... Lui, il a vraiment court-circuité l'étape didactique, si tu veux. Et il y a tout de même chez lui cette idée que, au fond, qu'on n'a pas besoin d'être un intellectuel pour être un artiste, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais ça ne suffit pas à faire l'impasse sur l'apprentissage des traditions d'un pays, d'un moment historique, d'une géographie de l'art, enfin voilà.
Tout ça peut se faire avec beaucoup de plaisir. On peut aller de plaisir en plaisir.
Évidemment.
Pour aller vers des plaisirs plus grands. Mais ça passe effectivement par un certain boulot.
Oui, le travail de l'intelligence aiguise le plaisir. Je ne pense pas qu'il le diminue, d'ailleurs. Quand tu lis ce que dit Proust sur Vermeer de Delft, bah, tu goûtes mieux Vermeer, quoi. Mm-hmm. Et si tu sais distinguer un ver véronèse d'un ver olive, et bah, tu goûteras mieux Chardin, une toile de Chardin. Donc, avec ces tentures un peu comme ça, souvent de couleur verte. Bon, il y a une gageure. Le mot ne suffira jamais à rendre compte d'une sensation, mais sans les mots, tu es perdu. Alors, on est toujours, c'est pourquoi je vous dis, je suis un idolâtre heureux et fier de l'être, mais malheureux parce que c'est difficile à exprimer. Voilà. Et au fond, ce livre, c'est une lutte pour l'expression de l'inexprimable ou de l'ineffable. Voilà.
Les créations, que ça vous plaise ou pas, que ça nous plaise ou pas,
André Malraux,
sont devant nous, non pas par la décision que nous en avons, que nous avons choisie.
France Culture, 1973.
Parce que c'est comme ça. Je veux dire, vous n'avez pas du tout choisi d'admirer l'Angelico. C'est comme ça.
Elle, comme dirait Claudel.
Eh bien, Claudel a raison. La totalité de ses présences pour vous, présentes ou virtuelles, répète une question. Elle joue sur la totalité de l'art tel que nous le recevons, c'est-à-dire à travers une métamorphose qui est à la fois historique, celle des siècles, et orientée par notre art.
Un Jésus et sa cour, la descente de croix, il faut durcir le trait, adoucir les contours, indélébile couleur, tant de gris délavé, où sont passés les bleus, les jaunes et puis les verts, les gouaches sur mes mains se sont entremêlées, je laisse sur les murs des traces de peinture.
Alors c'est quand même 20 ans, pendant 20 ans, tu as écrit sur des tas de sujets liés effectivement à l'art. Il faut entendre le mot art comme le nôtre, hein, c'est l'art occidental dont il s'agit.
Oui, ça j'avoue tout de suite que je ne
t'aventure pas au Japon, ni en Chine,
pas,
ni en Afrique.
Ça m'est arrivé de le faire, mais c'est vrai que c'est la confession, j'allais dire... d'un bourgeois blanc occidental. Bon, voilà.
Comment ça commence, Régis Debray, l'image chez nous, justement dans cet Occident ? Il y a un moment où l'image apparaît.
Oui, ça apparaît avec la lutte pour la vie ou la survie. Dès le Paléolithique, ils ont moins 30 000, hein, c'est la grotte Chauvet.
On va en parler, parce que ça, c'est une...
Oui, mais c'est important, parce que nous avons oublié que... Avec les images, on échappe à la mort. Par exemple, dans une tombe égyptienne, on coupe la tête de la vipère à cornes sur le mur pour qu'elle n'aille pas mordre le défunt. C'est-à-dire que l'image, ce n'est pas une copie inerte. L'image, c'est l'incarnation de l'animal qui peut tuer, qui peut mordre. Il y avait... un empereur chinois, on va parler de la Chine une minute, qui a dit « Là, vous avez peint sur mon mur cataracte, mais ça m'empêche de dormir. » Donc, il faut bien savoir ça, comprendre ça, que d'abord, l'image apparaît dans des lieux funéraires, hein, dans des lieux... Mais pas pour célébrer la mort, pour célébrer la vie, c'est-à-dire que l'image, ça donne de la force. Ça met en communication avec de l'énergie. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est mon interprétation, sur la grotte Chauvet, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'image d'homme. Et il n'y a pas d'image, je dirais, de la vie quotidienne. Il y a l'image de grands animaux, d'animaux féroces. C'est-à-dire qu'on veut, en quelque sorte, exorciser la peur et peut-être atteindre l'animal... à travers son image. Moi, je pense qu'on veut puiser la force des lions, des buffles, des rhinocéros, parce qu'ils sont source de vie. On veut capter cette, je dirais, de la force vitale.
Ce qui est frappant avec la grotte Chauvet, 35 000 ans, 34 000 ans, tu décris, c'est tout le début de ton bouquin, tu as eu la chance extraordinaire, le privilège extraordinaire de rentrer dans la grotte Chauvet, ce qui est très rare, puisqu'elle a été découverte il y a peu de temps, et on est en train de construire une copie à côté qui va être un grand centre d'études et de visites, mais on peut pas, sous peine de faire disparaître et d'effacer ces dessins, les voir. Et ce qui est frappant, c'est que c'est l'habileté extraordinaire Tu parles d'Ernest Pignon-Ernest, par exemple, d'autres...
c'est aussi beau que d'Ernest Pignon-Ernest, vit en 2013, si je ne me trompe. Voilà. Alors, on avait tous un schéma en tête, hein, avant la grotte Chauvet, que l'image, ça commençait par des petits signes, par des croix, par des traces très abstraites, et puis que ça allait progressivement vers le réalisme, vers Lascaux, quasiment un art académique. Mais pas du tout. Dès le début, le dessin... restitue l'œil, le muscle, restitue l'élan avec une finesse, un réalisme extraordinaire. Alors là, ça bouleverse tout.
Et avec un langage, parce que il y a du mouvement, il y a plusieurs figures qui succèdent, qui sont en mouvement, il y a des expressions du volume,
on
la rapidité du trait.
On utilise bien les anfractuosités, et les saillies de la roche.
Ça suppose une maîtrise du langage graphique et plastique,
qu'on retrouve, qu'on va retrouver chez, au 19e, chez Delacroix ou chez Rembrandt, etc. Mais c'est quand même une grande découverte.
C'est-à-dire que l'homme vêtu de peau de bête est un virtuose. Et ça, on ne s'attendait pas à trouver des virtuoses à 30 000 ans. Bon, on se disait, bon, il faut attendre l'art grec, etc. Non, non, bah, pas du tout.
On a une idée sur les auteurs de ça. C'est un groupe, c'est un homme, c'est un individu. On m'a dit que c'était peut-être une femme, enfin...
Il y a des mains d'enfants, les mains négatives, des mains d'adolescents. Non, on n'a pas d'idée. Le problème, c'est que tout est conjecture, puisqu'on n'a pas d'autres traces que les traces plastiques. Donc, on ne sait pas. C'était sans doute accompagné de rituels. Ça avait à voir avec le sacré, donc avec le vital. Puisque plus on rentre dans la grotte, comme quand on rentre dans une église, hein, ce qu'il y a de plus important, de plus sacré, est toujours tout au bout d'un parcours. Donc, c'est un parcours initiatique. Et c'est là où il y a le moins de lumière, qu'il y a un crâne d'ours, on devine une sorte d'autel. Donc, il y a du cultuel derrière tout ça. Mais moi, je crois surtout qu'il y a la lutte pour la vie, quoi. Non, c'est très impressionnant. Et puis, ça bouleverse effectivement toute la conception évolutionniste qui dit qu'on commence par le rudimentaire et on finit par le léché. Pas du tout.
Décembre 1994, un courant d'air dans la roche mène trois spéléologues vers cette cavité de 500 mètres.
France 3, le 19-20.
À l'intérieur, des empreintes de paume.
28 janvier 2012.
Et plus de 400 dessins au charbon et à l'ocre, deux fois plus anciens que les peintures de Lascaux.
Les grandes fresques de la grotte ont été faites par très très grands artistes. On est dans l'admiration. On voit des tas de détails. Et ça le rapproche de nous.
Chauvet, Brunel, Hilaire, les trois découvreurs ont l'intelligence de préserver les parois et les sols de la cavité qui ne sera ouverte qu'aux seuls scientifiques.
À travers tout ton bouquin, ce que tu viens de dire, à travers le plaisir de distinguer les différentes couleurs du verre, ou l'habileté d'un trait, etc., il y a un plaisir esthétique, hein. Tu n'as pas honte de dire oui, j'y viens des plaisirs esthétiques. Est-ce que les gars qui dessinaient ça, est-ce qu'on peut supposer qu'ils partageaient ce genre d'approche et de regard, ce plaisir esthétique que nous avons?
Ma thèse est que non. Je pense que l'esthétique, c'est très tardif. Pour qu'il y ait de l'esthétique, il faut qu'il y ait de la critique d'art, il faut qu'il y ait de la collection. Comme disait Kant, la finalité sans fin. Moi, je crois que ce sont des figures dont le but est intéressé. Ça aide à faire la chasse, ça aide à guérir les maladies, à se persuader qu'on est fort. Dans l'esthétique, il y a une sorte de désintérêt vital, tu vois, c'est-à-dire que c'est le beau fait exprès. Le beau pour le beau. Mais ces gens ne faisaient pas du beau pour le beau. Ouais. Je ne doute pas qu'ils avaient sans doute l'intuition d'une certaine harmonie des formes. Mais c'était pas des peintres. C'était des survivants qui essayaient de ne pas mourir.
Arracher
quelque chose à la mort. Et donc tout ça était très utilitaire. Mais l'art, ce qu'on appelle l'art aujourd'hui, une icône, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour entrer en communication avec le Christ ou la Vierge. Une icône, c'est fait pour oublier, je dirais, la beauté physique, pour la transcender vers une beauté supérieure, la beauté d'une révélation transcendante. Mais je pense que la grotte Chauvet, c'est une société de pénurie, c'est une société hantée par la mort, c'est une société qui essaye, je dirais, de se prolonger à travers des images. Alors, moi je sais, je choque tout le monde quand je dis, mais vous savez, l'art c'est né très tard, l'art c'est né à la Renaissance, voilà, bon. On peut pas dire que une déposition de croix, c'est de l'art, non, c'était... Ça relevait du cultuel, pas du culturel. Pour que une culture artistique advienne, ça se passe à la Renaissance, quand on fait du beau exprès, c'est-à-dire quand il y a d'abord une classe capable de thésauriser.
Il y a tout un lien avec l'art et le pouvoir.
Quand
aussi.
On quitte le sacré pour le profane, on commence à faire des visages d'hommes. Le portrait, ça naît très tard. Hein. Nous, c'est le XIVe siècle, le portrait de Jean le Bon, roi de France. Donc l'art, c'est très tardif. Autrement dit, le mot art ne veut pas dire grand-chose. Comme le mot image. Image, c'est un mot valise qui sert à tout et à n'importe quoi. Et puis nous avons aujourd'hui, bon, l'image photographique est une image qui est une trace, qui n'est pas une invention faite de main d'homme. Puis l'image animée, puis le scanner. Bref, l'image est un mot un peu fourre-tout. Et l'art de même est un mot un peu fourre-tout. Est-ce que l'art contemporain, c'est de l'art? Pas au sens classique du mot.
Mais je voudrais quand même qu'on vienne sur l'apparition de l'image, parce que tu as travaillé sur le fait religieux. Tu veux absolument, si on veut réfléchir un petit peu...
On peut pas séparer l'histoire de l'art de l'histoire de religions, où que ce soit, bouddhiste, taoïste ou chrétien, bien sûr.
Voilà. Alors, il y a quand même eu ce moment, ce départ, qui est à la naissance de l'art dont on est en train de parler là, c'est-à-dire l'art occidental, qui a quand même été poussé par le christianisme, qui a été permis par le christianisme.
Permis par le christianisme. C'est le seul monothéisme qui s'autorise l'image. Ça par le miracle, si j'ose dire, de l'incarnation, puisque le Verbe peut s'incarner dans un corps, c'est le Christ, qui est à la fois homme et Dieu, et donc si le Christ a été un être matériel, tu peux faire des images matérielles qui ne soient pas sacrilèges.
C'est ça, c'est un homme, je peins un homme, c'est le Fils de Dieu, mais c'est un homme.
C'est le Fils de Dieu, mais c'est parce que Dieu... invisible, c'est incarné dans un être visible que tu peux faire des images de cet être visible sans attenter à la dignité de Dieu, comme dans le monde islamique ou en partie dans le monde judaïque. Donc il y a une exception chrétienne.
Il fallait différencier de l'islam.
Ah bah, et fondamentalement.
C'est ça.
Puisque Dieu dans l'islam n'est pas accessible par l'œil. Il est accessible par sa parole, par son texte, par le Coran. Alors il y a à la marge, disons, de l'Inde et du Bengale, il y a dans le monde chiite certaines images possibles du prophète, mais même dans ces images-là, il n'y a pas le visage du prophète. Donc vraiment, je dirais que le christianisme, là, nous a fait prendre une avance considérable. Dans la mesure où l'image, ça sert à dominer, à conquérir, à persuader, à répandre une autorité, ça nous a donné un expansionnisme formidable à travers les images. Bon, jusqu'à Mickey Mouse, aujourd'hui. Ça nous a donné une grosse avance sur les autres civilisations.
Ça, alors c'est une pomme,
c'est rigolo.
Tu dis là,
ça,
alors c'est une pomme,
c'est rigolo.
Tu dis là,
ça,
alors c'est une pomme,
c'est rigolo.
Tu dis là,
ça,
alors c'est une pomme,
c'est rigolo.
Tu dis là,
one and one's wonder.
Toutes se ressemblent,
les énumérées
se gagnent en esprit, petit à petit.
One and one's wonder.
Mais toutes se ressemblent,
les énumérées
se gagnent en esprit, petit à petit.
Le stupéfiant image de Régis Debray, une suite de textes sur l'art, d'analyse, de balade, de dérive.
De rencontres aussi.
Et de rencontres, et des gens que tu nous fais découvrir, des artistes que tu nous fais découvrir. Visiblement, là-dedans, il y a beaucoup d'amis, quand même. Il y a beaucoup d'amitié, avec un certain nombre.
C'est le principe des rencontres. Je ne fais pas la propagande des copains, mais il se trouve que c'est les copains, tout de même, qui t'invitent à leur exposition, que ce soit...
Puis qu'ils ne sont pas tous mauvais. Tu me fais découvrir, en tout cas... un certain Vladi, tu veux dire quelques mots?
Oui,
sur ce...
alors Vladi est un Mexicain russe, c'est le fils de Victor Serge, alors tu le sais très bien, mais qui était Victor Serge? Victor Serge était d'origine russe, il avait vécu en Belgique, il a été incarcéré pour complicité avec la bande à Bono à Paris avant la Première Guerre mondiale, puis il a fait la révolution bolchevique avec Lénine, il s'est brouillé avec Staline, Romain Rolland a obtenu que Staline le sorte de prison, il est revenu en France, haï par tout le monde, parce que suspect comme trotskiste, etc., il est parti mourir au Mexique. Et son fils, qui est mort aujourd'hui, son fils est devenu un grand fresquiste mexicain, un peu à la Orozco, à la Diego Rivera, et qui a fait un peu une sorte de légendaire trotskiste à travers sa peinture, une épopée comme ça. Il maintenait très vivante cette tradition d'une peinture collective, populaire, en dehors du marché, parce qu'une fresque ne se vend pas.
Ah non.
Donc complètement bannie des musées occidentaux. Hein.
Oui, oui.
D'ailleurs, pourquoi il y a une exposition Frida Kahlo et pas une exposition Diego Rivera?
Parce que Diego Rivera, c'est la fresque.
Faut dire le jour. Alors, bon. Frida Kahlo est une invention des États-Unis d'Amérique, il faut le dire. Bon, une personnalité romantique qui a exprimé sa souffrance, qui a été l'amante d'un grand personnage, dont Trotsky, un oui. grand amour de Trotsky. Donc c'est vrai que c'est un personnage très intéressant, mais d'un point de vue pictural, c'est tout de même Diego Rivera.
Ça, c'est vrai que sa légende dépasse un peu sa peinture. Est-ce que c'est pas mal d'évoquer ça, l'artiste, la personnalité de l'artiste, la légende, oui. sa vie, son caractère, son sale caractère, ses amours, ses chiens, ça vient avant la peinture, parfois, la légende. Ça évoque le moment où l'artiste apparaît. L'artiste qui tombe du ciel tout d'un coup.
C'est vrai que l'art naît avec la figure de l'artiste, avec la biographie de l'artiste. C'est pourquoi on dit que Vasari, le premier légendaire des grands peintres de la Renaissance, au XVIe siècle, a inventé le mythe de l'artiste, du grand artiste, de Michel-Ange, etc. Et aujourd'hui, alors ça, évidemment, avec la médiatisation, sans doute que Salvador Dali a été un point de basculement important. Salvador Dali a compris que
Avida Dollar,
le peintre,
l'anagramme,
le peintre enfin devait se montrer, et à la limite, au contraire de Flaubert qui voulait se cacher derrière ses romans et ne pas apparaître, lui a dit voilà, moi je vends Salvador Dali en tant que personnage, et après vous achetez mes toiles. Mais il y a toujours une héroïsation de l'artiste qui commence à la Renaissance. Faut-il dire que au Paléolithique, dans la grotte Chauvet, vous ne trouvez pas de signature. Hein. La peinture religieuse, jusqu'au XIVe siècle, n'a pas de signature. Donc voilà, la signature, c'est la naissance de l'intériorité d'un individu qui se livre sur une toile ou sur un mur, et c'est aussi la naissance d'un bien meuble. Excusez-moi de revenir à des choses un peu triviales, mais un retable, c'est-à-dire ce qui décore un hôtel, vous savez, les grands triptyques du Moyen-Âge, ça se transporte pas.
Oui,
vous pouvez pas l'amener chez vous.
Oui. Donc on peut pas spéculer.
Il n'y a pas de spéculation. Et puis tout d'un coup, la peinture se mobilise, donc elle se thésaurise, elle se vend, elle se revend, ça commence à peu près avec Rembrandt, enfin un peu avant, l'apparition de la peinture comme marchandise, échangeable, faisant l'objet...
Mais l'artiste, Régis Debray, l'artiste de toute façon, celui que vous évoquez là, est toujours lié quand même, dépend toujours d'un pouvoir politique, d'un pouvoir financier. Il est là pour légitimer, il est peintre de la cour. Il faut bien qu'il vive, ce gars-là. Il dépend aussi, il y a tout un tas d'aspects qu'on n'évoque pas beaucoup dans la vie des artistes, mais enfin, ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire ils mangent tous les jours, ils ont des enfants, des loyers.
Oui, vous avez raison, on peut d'ailleurs faire une histoire des arts visuels par de qui est-il dépendant. Il est évident que pendant des siècles, il est dépendant de l'Église. Ensuite, il est dépendant de la cour ou de la monarchie. Et ensuite, aujourd'hui, il est dépendant du marché.
Mais oui.
Bon, il y a toujours un fil à la patte, si vous voulez. Bon, ça n'empêche pas les gens de voler loin. Mais bon, c'est vrai que, oui, un artiste est toujours au service des grandes fortunes. Et d'ailleurs, on peut dire que, pour tempérer un peu la ruée vers l'art d'aujourd'hui, les grands foyers de production artistique ont toujours accompagné les grands foyers capitalistes. Hein, c'est-à-dire que ce que nous appelons, nous, peinture, c'est l'Italie du Nord, puis c'est la Hollande, puis c'est Paris, puis c'est Londres, puis c'est New York. C'est-à-dire, là, c'est un problème que j'ai avec mes amis de gauche comme vous. c'est que pour qu'il y ait de l'art, il faut qu'il y ait des riches.
Voilà. Il y a des contingences aussi. Quand le marchand qui s'occupait de Manet lui dit, tu sais... Là, j'ai pas mal de commandes, si tu nous faisais des bouquets en ce moment. Voilà, et Manet fait des bouquets, parce que son marchand lui a demandé, il va faire une série de bouquets. Bon, c'est pas très... Ils sont magnifiques, c'est Manet, etc. Mais enfin, il y a toutes ces contingences qu'on met un peu de côté, il y a une telle idolâtrie de l'artiste qu'on oublie très souvent, et trop souvent, ça n'enlève absolument rien au talent de Manet. Mais c'est des choses qu'on oublie assez souvent de mentionner, ce qui en fait des êtres à part, qui...
Attendez. L'artiste comme être à part, c'est une création récente. Hein. Ça naît à peu près au 18e, ça va s'épanouir au 19e. Mais d'abord, un artiste, c'est quelqu'un qui illustre de façon très canonique un dogme préalable. Il fait de la peinture d'histoire, de la peinture religieuse, du paysage, c'est-à-dire, il exprime une corporation et des normes académiques. Et puis ensuite, il va se mettre à exprimer une intériorité, une singularité. Et ça naît au 19e siècle, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'art moderne. dont Malraux disait assez justement, au fond, la peinture moderne commence à partir du moment où le tableau de Clémenceau par Manet exprime Manet plus que Clémenceau.
Ah, c'est bien vu.
Profond.
Oui, 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 oui.
C'est-à-dire qu'on demande au peintre d'avoir un style et de livrer quelque chose de sa singularité. Bon. Aujourd'hui, on lui demande de faire du fun, c'est autre chose. On lui demande de faire du divertissement. Donc voilà, le mot art n'a plus à changer de sens, si vous voulez. On emploie toujours le même mot, voilà. Bon.
D'un pif à la Picasso, des yeux à la Botticelli, des lunettes à la Miro, un sourire à la De Vinci. Oui, t'as des courbes à la Courbet, des rondeurs à la Botero, des richesses à la Monet, des sourcils comme Frida Kahlo. Ah non, c'est pas facile de brosser ton portrait. Ne change rien, même pas un style, car c'est comme ça que tu me plais.
Le stupéfiante image de Régis Debray, une suite de textes sur l'art. Il y a peut-être des gens qui échappent à tout ce qu'on vient de dire là. C'est le passage que vous consacrez, le texte que vous consacrez à Haïti.
Ah, Haïti.
C'est peintre. Et ce texte est très beau parce que, bon, on le dira, c'est touchant, ces gars-là. Ils sont naïfs, ils expriment le fond de leur cœur. Enfin, on a toute une vision absolument paternaliste, coloniale, sur cette peinture. Et en quelques pages, vous la sortez de ce clicheton.
Haïti, c'est un cas très singulier. C'est le seul peuple de peintres. Il se trouve que la peinture est l'expression par les Haïtiens de leur histoire, de leurs souffrances, de leurs rêves. Et tout le monde s'y met, pour ainsi dire. Alors aujourd'hui, c'est devenu peut-être une petite industrie touristique. Mais il faut se rappeler tout de même que le dernier voyage que Malraux a fait... peu avant sa mort, c'est en Haïti, à la communauté Saint-Soleil, qui regroupait des artistes et qui se définissait comme par appartenance à une communauté. Alors là, on est très proche du magique, on est très proche...
Et on est loin du marché.
Ah, on était loin du marché aujourd'hui.
Mais maintenant, ça a changé.
Avec le tourisme, la peinture haïtienne a pris de la valeur, mais au départ, non. Au départ, c'était parce qu'on était habité par un loa, par un esprit, un zombie, on voulait, disons, transmettre quelque chose de ces zombies qui vous harcelaient sur une toile. Enfin, c'était de la peinture comme conjuration, exorcisme. C'était une peinture magique, une peinture d'intérêt vital.
Alors, on continue de se balader dans ce bouquin, on peut le picorer dans tous les sens, comme on veut. On va revenir un petit peu sur Ernest Pignon-Ernest, qu'on aime tous les deux, qui est un ami, qui lui a absolument voulu faire un art qu'on pourrait qualifier de savant et populaire à la fois, c'est-à-dire qu'il est apparemment il est accessible, presque tout le monde peut rentrer immédiatement, d'ailleurs c'est ce qu'il cherche, qu'on puisse entrer dans son travail, et puis ça porte loin ensuite, parce qu'il y a tout son art, son habileté, sa façon de composer. Il y a un très beau petit documentaire qu'on peut voir sur Arte, sur lui, qui est pour une fois bien foutu, où on le voit plus en train de travailler, de bouger, il est sur un petit escabeau la nuit, sur un port, je ne sais où, en train de coller ses dessins, et l'escabeau est trop petit. Enfin, il y a des tas de choses très vivantes et qui ressemblent bien aux peintres qui finalement, effectivement, font un art muet. Il est parfois préférable qu'il reste dans le mouvement, dans le geste, plutôt que dans le discours. Et là, c'est très réussi. Et là, il y a quelque chose qui permet de rentrer si on veut entrer dans la peinture, dans tout ce qui nous intéresse là, qui vous passionne là, Ernest Pignon-Ernest est une très bonne porte d'accès, non, vous pensez pas?
Oui, c'est la période innocente et glorieuse du street art, de l'art de la rue, qui est devenu aujourd'hui de plus en plus une marchandise ou une signalétique qui se balade de ville en ville, alors que lui, il s'ancre dans un lieu, n'est-ce pas? Il ne sépare pas l'évocation d'une figure religieuse ou profane, d'un lieu public. Et c'est seulement là, dans les rues de Naples, qu'il réactualise les figures de Caravage, par exemple, où c'est devant le Sacré-Cœur qu'il réactualise les figures des communards.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a toujours une façon de dialoguer avec les gens qui viennent regarder, mais de les remettre en situation, dans un contexte signifiant. Cette sorte de communication populaire, d'ouverture au public, de sensibilité, disons, aux souffrants, aux hommes défaits, aux vaincus de l'histoire. Il y a donc à la fois une virtuosité de la main et du cœur.
Voilà. Bon. Alors, c'est pas toujours aussi gentil que ça, le bouquin, hein, quand même. Vous évoquez Hockney, et vous vous intéressez au mécanisme du succès de Hockney. C'est pas d'une très grande tendresse.
Hockney est quelqu'un d'intéressant, mais simplement, ce qui m'a intéressé, c'est la construction d'une valeur exceptionnelle, la construction d'un peintre qu'on a assimilé à Picasso. Ce qui exige vraiment une grande maestria dans la communication. En politique, vous avez les spin doctors, hein, les gens qui sont des professionnels de la communication, pour qu'on diabolise tel personnage auquel on veut balancer quelques missiles. Et ben là, il a une synthèse de critiques plus ou moins complaisants, de supports à la fois de presse, de publicité, ont fabriqué socialement une originalité exceptionnelle, voilà. Que ça ne veut pas dire du tout que ce soit insignifiant, ça veut simplement dire que un génie, ça peut se fabriquer aujourd'hui. Il y a tout un jeu comme ça, de renvoi, de connivence, qui construit de la valeur à la fois symbolique et de la valeur financière.
Et qui se cache derrière un mécanisme d'intimidation, qui est que tous ces peintres, tous ceux de l'art contemporain là, que vous êtes en train d'évoquer, marchent par la provocation de plus en plus provocante. C'est « voilà, j'ai pissé pendant 5 ans sur cette toile et je vous la vends. Voilà mes excréments. Là, j'ai coupé un veau en 2 parties et je l'ai mis dans le formol, etc. »
Disons, c'est l'impératif de la transgression. Avant, vous aviez l'impératif de la fidélité à une expression bien répertoriée au XVIIe, au XVIe, puis l'expression d'une intériorité. Et aujourd'hui, vous avez l'impératif de transgression. C'est-à-dire, il faut produire de l'inattendu. Ce qui est une loi de la société de communication. Car au fond, qu'est-ce qu'une information ? C'est l'inverse d'une probabilité d'apparition. C'est-à-dire que le chien a mordu l'évêque, c'est pas une information. Parce que tout le monde s'attend à ce qu'un chien morde l'évêque. L'inverse d'une probabilité d'apparition, c'est l'évêque qui mord son chat. Ça, c'est une nouvelle. Donc, les artistes, ils ont compris ça.
Donc, oui, mais sauf que tous
ils veulent, ils donc,
mais tous
ils
les
doivent,
évêques mordent leur chien maintenant.
Voilà, c'est ça le problème. Nous avons ce paradoxe.
Donc, ça devient banal, on s'en fout.
La transgression est officielle.
Voilà.
L'inattendu est attendu. Le scandale est obligatoire.
Voilà.
Et non seulement obligatoire, mais surpayé, si j'ose dire.
Voilà.
Et rétribué officiellement. On a ce paradoxe d'un art qui se dit d'avant-garde, mais qui est en fait totalement officiel, et qui s'impose par les mêmes moyens que la peinture académique s'imposait en 1880. C'est amusant.
Là, vous parlez vraiment comme un réac.
Mais comme un réac.
Le chantage, il est là. C'est-à-dire que parlant comme vous le faites, ah, bon, c'est pas étonnant, c'est déjà que vous êtes réac, mais là, l'intimidation, elle est là. Il faut approuver toutes ces audaces. Muret parlait des mutins de Panurge, ils sont tous révolutionnaires en même temps, et si on dit mais non, ah, alors d'accord, vous êtes un réac, vous marchez pas dans cette, vous n'êtes pas dans la course.
Oui, c'est ce qu'on appelle très vulgairement le conformisme de l'anticonformisme. Mais c'est très drôle tout de même, parce que on est entré dans un autre monde. Vous savez, les gens riches, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de se divertir. Et l'art est une façon non seulement de montrer qu'on a un statut, c'est-à-dire qu'on est un collectionneur et qu'on peut donc...
Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce fric ? Voilà ce qu'on fait avec...
Inviter ses copains PDG chez soi en leur disant, voyez-vous, ça, je vais payer plus cher que toi. Enfin, bon, c'est une sorte de compétition de statut. Puis c'est aussi l'envie de faire la fête, d'être dans des foires, de s'amuser, au fond. Je pense que là, nous sommes dans une loi du divertissement qui devient à la fin un peu morne et répétitive. Moi, je n'exclus pas d'une renaissance de la peinture. D'ailleurs, je note que vous avez aujourd'hui encore de très grands peintres. Je pense à Lucien de Freud, à Ricard, un certain nombre de grands
peintres. Et à Fromanger, dont vous parlez longtemps, parce que là, on a une une œuvre, mais une vie cohérente avec Fromanger.
Oui.
Les gars de cette génération, en gros c'est un peu la nôtre, généralement ils ont trahi, ils sont allés du côté du Manche, ils sont passés du col Mao ou Rotary. Non, il y en a qui ont mené leur truc avec beaucoup de cohérence, et c'est le cas de Fromanger à travers sa vie et son boulot.
Qui a fait une peinture à la fois savante et populaire, savante par toutes ses allusions à l'histoire, aux grandes traditions picturales, à Velázquez, à David, et également qui a l'art d'un certain dynamisme d'affiche, comme ça, c'est beaucoup plus qu'un illustrateur, mais il sait se rendre populaire, donc... Il y a de l'idée sous les images de Fromanger, voilà. Oui. Parce que je crois que les peintres, les grands artistes ont le don de capter l'essence historique d'un moment. Ils font pas de thèse, ils font pas de philosophie, mais ils font mieux, ils nous montrent, ils exposent des choses qu'on a du mal à mettre en concept. Et je trouve que Fromanger nous dit beaucoup sur le monde contemporain.
Vous vous intéressez aussi à la photo? Dans le stupéfiante image, il y a des textes sur des photographes comme Sébastien Salgado, Roger Pic, celui qui a photographié Fidel Castro et le Che, notamment. Il y a une magnifique photo qui est reproduite dans le bouquin. Mm-hmm. Vous rendez hommage à Willy Ronis.
Oui.
Et c'est bien, j'aime beaucoup ce que vous en dites, parce que vous, évidemment, il a dépeint les quartiers populaires, le bon vieux Paris, etc. Mais pas seulement, il y a une sorte de noblesse populaire chez Willy Ronis, qui portait sur lui, et ce qu'on voit tout simplement dans ces images, aujourd'hui durablement.
Si c'était de la musique, ce serait un hybride de Dalida et d'Eric Satie, une pièce pour piano cocasse et nostalgique, oui. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui également... Alors, on appelle ça la photo humaniste, n'est-ce pas? Alors, la photo humaniste, on en parle toujours avec un certain dédain. C'est comme si c'était un peu les clichés du vieux Paris, les poses d'une bohème un peu préfabriquée. Non, d'abord, Willy Ronis, il a capté les mouvements sociaux de son temps, notamment le Front Populaire, dans une esthétique très maîtrisée, qui n'était pas du tout au fil de l'eau. Il a transmué le journalisme en œuvre d'art. Voilà, je pense à ses reportages sur 36, la grève chez Renault. Il a vraiment inventé une architecture de lumière et il a mis le peuple dedans. Pas le peuple avec un grand P, il a mis la vie quotidienne dedans. Non, c'était un grand bonhomme, Willy Ronis.
Régis Debray, on va finir, on pourrait continuer, c'est un vrai bonheur hein, de se balader dans votre bouquin, de vous écouter, ça donne vraiment...
Oui, c'est une promenade, hein, c'est un périple, on voudrait prendre le lecteur par la main et puis éventuellement qu'il ne soit pas d'accord avec moi.
Hein. Il y a une magnifique, là aussi, moi j'ai eu un petit coup de nostalgie en voyant la photo de Gérard Philippe dévorer des livres.
Vous êtes gentil, mais attendez, vous n'avez pas souligné tout de même une lacune, c'est la BD.
Ah oui, bah non, il y a beaucoup de lacunes. C'est un bouquin. C'est un bouquin plein de lacunes.
Vous savez, pourquoi je vous parle de la BD? Parce que je crois que la BD, c'est la revanche du figuratif sur l'abstrait. Je crois que la BD, c'est la résurgence. De la peinture de jadis, c'est-à-dire du dessin, qui est la noblesse de l'art, puisqu'on n'a plus le droit de dessiner ni de peindre, eh ben, les gens de la BD nous racontent encore des histoires.
C'est un refuge populaire pour accéder au grand un grand public aussi. Oui.
C'est la résurgence d'une tradition réprimée. Comme quoi, il ne faut jamais dire que c'est la fin de tout. C'est la fin de tout, c'est le début de quelque chose.
Vous avez des peintures chez vous? Vous collectionnez? Vous achetez?
Oh, moi, je n'ose pas collectionner. J'ai des peintures d'amis qui me donnent ou qui me vendent des toiles à très bon prix, mais je ne peux pas dire que je suis un collectionneur. Vous savez, c'est plus à la taille d'un petit écrivain. Hein, je veux dire, suivre le mouvement aujourd'hui... Sans être Monsieur Pinault ou Monsieur Arnault.
Oui, alors là.
Non, mais d'accord. Non, mais là, ce sont des grands.
Pinault, le magnifique.
Des grands spéculateurs. Là, on est dans d'autres ordres de grandeur.
Donc, on se contentera de continuer de vous lire, regardant, écrivant sur l'art et pas seulement la peinture, mais la photo, l'image.
Merci,
Régis Debray.
Thank you. C'était le stupéfiant image, un entretien de Daniel Mermet avec Régis Debray. Merci à Régis Debray dont le livre Le stupéfiant image, sorti en septembre dernier, est disponible aux éditions Gallimard. Vous retrouverez toutes ces informations et bien plus sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Et si vous voulez voir les images citées, elles sont aussi visibles sur le site la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Clément Vuillet et Philippe Duclos, une émission réalisée par Jérôme Chélius et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong. Et c'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Et pour mieux comprendre et cerner cette discrimination, nous avons travaillé tout au long de l'année sur justement des scènes de discrimination. La troupe du théâtre Nage va nous en présenter quelques-unes.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'esplanade du Trocadéro, où la compagnie Nage va bientôt jouer un spectacle. Et ça fait combien de temps que cette compagnie, Nous n'abandonnerons jamais l'espoir, existe ?
97, ça fait quoi ? Ça fait presque 15 ans.
C'est comment votre nom ?
Fabienne Brugel.
Mais alors justement, c'est des scènes que vous avez écrites vous-même ?
C'est toujours des histoires vraies et c'est des scènes sur lesquelles soit on a des habitants, des gens qui ont fait des ateliers avec nous qui les ont vécues, soit c'est suite à des enquêtes, des gens qui ont vécu ces histoires-là, qui nous les ont racontées.
Et votre prénom ?
Émy.
Parce que quelle qualité il faut pour travailler dans votre compagnie ?
Eh bien, il faut être comédien. Et puis, il faut être intéressé par la politique et avoir une espèce de connaissance du monde social. Donc, en fait, quand c'est des comédiens, au départ, il y a tout un truc sur la formation politique pour ceux qui n'en ont pas assez au départ. Et puis, pour ceux qui ne sont pas comédiens, mais qui sont militants politiques, militants, en fait, il y a une formation au théâtre. Mais c'est vraiment les deux, il faut qu'on ait les deux dans la compagnie.
Mais militants, il faut être de quel parti ?
Ah ben, il n'y a aucun parti, justement. On n'est pas des militants de parti, nous. Aucun n'est encarté chez nous. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique, en fait. C'est très bien qu'il y ait des partis. Enfin, bon, bref, voilà. Mais nous, on n'est pas un parti.
Qu'est-ce que vous entendez par formation politique pour vos comédiens ?
Ben, comprendre comment fonctionne le monde, se faire une analyse de la situation, faire de l'histoire, faire de la politique, faire de la géographie, lire journal, enfin pas n'importe lequel, essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, quoi. C'est ça, en fait, faire de la politique. Pour nous.
Nage, c'est quelqu'un de bien aussi, il faut lui parler. Il n'a rien à voir avec Nage, mais qui a rencontré Nage. Enfin, on s'est rencontrés il y a quelques années et on a fait du boulot ensemble avec Anne.
Qu'est-ce que vous faites, Anne ?
Ah bah, moi, il faut... Non, mais... Il ne faut mieux pas que je passe à la radio parce que moi je suis au secrétaire général de la ville de Paris, ils ne sont pas au courant que je suis ici. Quoi.
Ah, alors on arrête tout de suite l'interview alors.
Ouais. Enfin bon, voilà, mais sinon ben, je fais un plus à titre militant. Enfin voilà.
Ils sont comme ça la ville de Paris, moi je pensais que c'était cool.
Non, mais bon.
Ah oui. Mais enfin, c'est pas honteux ce que vous faites la compagnie.
Pas du tout, pas du tout. Non, mais moi je les ai connus avant lorsque j'étais à la direction générale de la cohésion sociale. Bon, pour dire tout à l'heure, c'était que je ne voulais pas que ce soit par rapport à mes fonctions à la ville de Paris. Bon, moi, je continue à donner pas mal d'interviews par rapport à mon parcours, mon livre.
Parce que vous avez fait quoi comme livre ?
De la zone Aléna.
De quoi ?
De la zone Aléna.
Donc vous avez commencé dans la rue et vous avez fini Aléna ?
Bah voilà.
C'est bon, tout est dans le titre, en fait.
Exactement, c'est moi qui l'ai choisi, c'est pas l'éditeur.
Et quel est le nom de l'éditeur, si on veut trouver votre livre ?
Cherche Midi.
Et votre nom ?
Anne Joubert.
Qu'est-ce qui vous a aidé à passer de la zone à l'ENA ?
En fait, c'est lorsque on a voulu avoir un enfant avec mon compagnon et que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas l'élever dans la rue, qu'il serait pris par les services sociaux, par la DAS. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me réintégrer dans la société.
Ça a été facile ?
Non, ça a été très dur. Très très dur parce que j'ai repris mes études, ça commençait par passer le bac, etc. Et ce qui était compliqué, c'était qu'à l'époque, il n'y avait ni de RMI ni de RSA. et que donc il fallait en même temps faire des études, donc avec très peu d'argent. Et vivre avec un enfant, puis deux enfants. Donc, c'était une double vie. C'était en même temps les études et en même temps je continuais la mendicité. Je continuais, pour pouvoir bouffer.
Et de là aller jusqu'à l'ENA, il fallait de la volonté.
Ah, mais ça a été très long. Hein. C'est un parcours qui ne s'est pas fait en quelques jours, ça va de soi.
En combien de temps?
Ça a été très long, ça a été entre plus de 20 ans, parce que j'étais journaliste pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai passé le CAPES, j'ai été prof pendant une dizaine d'années, et j'ai passé le concours interne de l'ENA, et voilà.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans la compagnie Nage ?
C'est absolument super, parce que l'intérêt, c'est de permettre aux gens de s'exprimer. Donc, par le théâtre et par le théâtre forum, les gens peuvent, par des mises en situation, exprimer des tas de choses sur leur vie, sur leur ressenti. Et c'est aussi un moyen d'insertion pour les personnes en difficulté.
Et vous avez participé à des spectacles ?
Oui, j'ai participé notamment à l'écriture de spectacles et aussi un petit peu avec des spectacles, mais surtout au niveau de l'écriture et de la préparation de spectacles.
Et si on veut en savoir plus, eh bien, c'est pas compliqué. Il y a votre livre de la zone à l'ENA, Anne Joubert, aux éditions du Cherche Midi.
Ça va ? Donc, on va vous jouer deux situations qui, pour nous, posent problème. On va voir si vous les reconnaissez. Et puis, on va les recommencer une deuxième fois. Parce que ce qu'on a envie, c'est que vous veniez prendre la place du personnage avec lequel vous vous sentez d'accord pour qu'on voit comment on lutte. Donc, on commence par vous proposer une scène qui se passe chez le dentiste.
Et si on veut en savoir plus sur la compagnie Nage, compagnie-nage.fr. Et on verra... tous vos prochains spectacles.
Absolument. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
France Inter et le Théâtre du Nord à Lille présentent du 8 au 16 novembre Les Particules élémentaires. Le roman sulfureux de Michel Houellebecq porté à la scène pour la première fois en France par Julien Gosselin et le collectif Si vous pouviez lécher mon cœur. Spectacle événement du dernier festival d'Avignon, les particules élémentaires évoquent, à travers l'existence de deux demi-frères, Michel et Bruno, l'histoire de l'homme occidental de la fin du XXe siècle. Retrouvez Julien Gosselin le 11 novembre à 22h dans Ouvert la nuit et sur franceinter.fr.
À suivre Frédéric Lodéon, très bonne journée à l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
La bourse vient d'ouvrir à New York, légère hausse depuis le début des cotations. Cela fait suite à la décision de la Banque Centrale Européenne de réduire son principal taux directeur. Mais la séance sera aussi particulièrement suivie aujourd'hui en raison de la première cotation de Twitter. Le site de microblogging fait son entrée en bourse cet après-midi. Son prix d'introduction a été fixé à 26$. La Belgique s'apprête à rétrécir son territoire de 14 hectares au total qui vont en fait être cédés aux Pays-Bas. C'est la conséquence du règlement d'un vieux contentieux frontalier lié au changement du lit de la Meuse. Le fleuve a bougé depuis les travaux menés dans les années 60. Pas sûr que le jeune alpiniste qui a trouvé une boîte remplie de pierres précieuses sur le glacier du Mont Blanc reste longtemps le seul bénéficiaire. On apprend aujourd'hui que 6 personnes ont déjà revendiqué le trésor. D'après la mairie de Chamonix, certaines de ces demandes ont l'air assez fondées. Parmi les personnes qui se sont manifestées figurent les ayants droit d'un certain monsieur Issacharov. Peu après le crash de l'avion indien en 1966, des agents mandatés par la Lloyds, la banque britannique, avaient écrit aux autorités françaises pour les informer qu'un colis rempli d'émeraudes se trouvait à bord de l'avion. Ce colis en question était adressé à M. Issacharov de Londres. Il s'agit d'un joaillier londonien. La première usine en France de production de biodiesel à base de graisse animale a été inaugurée aujourd'hui au Havre. Elle devrait produire à terme 75 000 tonnes par an de ce nouveau biocarburant. Selon ses promoteurs, il permettra de réduire de 83% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au diesel normal. Au Masters de tennis de Londres, deuxième match cet après-midi pour Richard Gasquet. Le Français affronte depuis plus d'une heure maintenant le Suisse Roger Federer. Les deux hommes en sont au deuxième set. Il y a baston, comme on dit, mais avantage au Suisse. Fabrice Adgrave, vous êtes en direct de Londres.
Avantage aux Suisses dans cette rencontre débutée il y a maintenant 50 minutes. Le Suisse a remporté le premier set 6-4 et dans la deuxième manche, 2-1 pour Roger Federer. Il a fait le break d'entrée, il a pris le service de Richard Gasquet. Federer est au service actuellement, mais attention, Gasquet a l'occasion de débreaker, de revenir à 2 jeux partout. Un Roger Federer extrêmement brillant, parfois même époustouflant, en tout cas toujours très inspiré. Roger Federer, il est plus rapide, plus agressif, plus vif que Richard Gasquet qui s'accroche hein, malgré tout, mais face à un Roger Federer comme celui-là, c'est bien difficile de résister. Il vient d'effacer cette balle de débreak, donc toujours 2-1 pour le Suisse dans la manche. Le premier set remporté par Federer, 6-4.
Fabrice Abgral en direct de Londres et vous écoutez France Inter, il est presque 16h03.
Summertime. Summertime, Elsa Boublil.
Dimanche, dès 22h, Summertime se transforme en club de jazz et accueille l'étincelant trio de Shy Maestro. Un concert en direct et en public. De Tel Aviv à Brooklyn, le trio s'arrête au studio 106 pour 2 heures de concert privé.
Pour assister à cette soirée aux couleurs jazz, rendez-vous une demi-heure avant l'émission devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Toutes les infos sur franceinter.fr. France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Et bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve tout à l'heure à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour, bonjour. Tout à l'heure, vers 16h30, je recevrai le grand pianiste et compositeur Pascal Amoyel, qui nous parlera des notes d'automne au Perreux-sur-Marne. C'est un festival tout à fait original qui mêle la littérature, la poésie et la musique. Je parlerai aussi des symphonies d'automne de Mâcon. C'est un festival de chant avec un très beau concours. Et pour commencer, un envoi de nos amis anglais. Mais oui, la BBC, BBC Legends, nous envoie un beau coffret avec ce qu'ils ont gardé dans leurs archives du passage de certains artistes, comme par exemple Pierre Monteux, chef d'orchestre fameux, qui avait été le héros de la création scandaleuse du Sacre du Printemps de Stravinsky en 1913, où au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, on avait tout cassé tellement tout ça paraissait monstrueux et inouï, surtout au sens propre, dans le vrai sens du terme, et la chorégraphie, il faut dire, était très provocante aussi. Bref, Pierre Monteux, ça, il a supporté tout ça avec un calme absolument extraordinaire, et en 1961, il est toujours là, et il est toujours aussi magnifique. Il dirige l'orchestre BBC Symphony et je vous propose d'entendre la marche hongroise et la damnation de Faust de Berlioz. Entendez la verdeur, la vivacité de ces musiciens et comme les cuivres anglais savent sonner et nous étonner. We'll be right back. La marche hongroise de la donation de faux